Le journal Florence Paracuellos, bonjour.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous. À la une ce matin, comment requinquer la santé en France avec des médecins de ville pour assurer les urgences ou des internes à la médecine du travail. Dans un instant, les grandes lignes du plan annoncé demain par Emmanuel Macron. Le président et la petite phrase du week-end, l'hôtellerie-restauration embauche-t-elle vraiment à tour de bras et sans qualification, vérification sur le boulevard du Montparnasse à Paris. Et réaction de votre invité à 8h20, ancien candidat à la présidentielle et partisan du revenu universel.
Benoît Hamon, fondateur du mouvement Génération, notre invité donc dans une vingtaine de minutes. 01 45 24 7000, les réseaux sociaux, l'application France Inter pour toutes vos réactions et vos questions.
À la une également, on fait sauter le verrou de Bercy, c'est une révolution fiscale qui se prépare à l'Assemblée. Les gros dossiers de fraude seront directement transmis à la justice. Le procès Hélène Pastor, du nom de cette milliardaire assassinée à Nice, son gendre dans le box des accusés, le typhon Mangkhut et ses monstrueux dégâts en Asie, presque 2,5 millions d'évacuations en Chine. Nous serons avec notre correspondante. Deux nouveaux trains à hydrogène en Allemagne, c'est une première mondiale. Et puis la force des mots, on ira écouter les plaidoiries qui ont fait l'histoire dans la bouche de Richard Berry au théâtre.
France Inter.
Un patient qui passe la nuit sur un brancard, un médecin débordé en zone rurale, un étudiant sur 10 qui pense au suicide. Voilà trois images de la médecine en France. Au-delà des prouesses chirurgicales et de l'espérance de vie qui s'allonge parce qu'on est bien soigné, il y a cette médecine malade à laquelle nous sommes tous confrontés et que le gouvernement a l'intention de guérir. Un vaste plan santé sera annoncé demain par Emmanuel Macron, dont on connaît les grandes lignes. Bonjour Véronique Julia.
Bonjour.
Spécialiste santé à la rédaction de France Inter. Véronique, il est question de rapprocher les médecins de ville des hôpitaux.
Oui, en fait, le gouvernement veut résoudre ce problème récurrent du patient qui va trop systématiquement aux urgences parce qu'il ne trouve pas de médecin. Pour une angine ou une entorse, tout le monde n'a pas besoin d'un plateau technique ultra perfectionné. Il faut donc inventer des structures intermédiaires plus légères. Et là, l'idée, ce serait de créer dans des hôpitaux de proximité des unités dédiées à ce premier recours où travailleraient à la fois des hospitaliers et des médecins libéraux. On y traiterait les urgences non vitales, les sorties d'hospitalisation aussi, avec un suivi mieux organisé, ces centres de premier recours. Il en faudrait idéalement 5 à 600 sur le territoire. Alors évidemment, les médecins de ville étant eux-mêmes débordés, comment faire pour leur libérer le temps d'assurer cette mission? Eh bien, en mettant à leur disposition des assistants médicaux, c'est un autre grand volet de ce plan, financer aux médecins libéraux des aides médico-techniques, chargées d'accueillir les patients, de faire du secrétariat ou même de peser ou de déshabiller un nourrisson. Le médecin plus disponible pourrait ainsi recevoir plus de patients.
Véronique, il va aussi y avoir du changement pour les étudiants en médecine.
Oui, le fameux numerus clausus, machine à brouiller les étudiants d'après ses détracteurs. Dans ce plan, il est question de relever le nombre d'admis en médecine en fin de première année. Question aussi de réformer cette première année en remplaçant le concours par une sélection différente et moins rigide. Réformer le contenu des études aussi et sortir d'un modèle français finalement très hospitalo-centré, pardon, en prévoyant plus de stages dans cabinet de ville, en maison de retraite ou en médecine du travail.
Véronique Julia, merci.
Et dans l'hôtellerie, la restauration, le bâtiment, je traverse la rue et je vous en trouve un emploi.
C'est la phrase du week-end signée Emmanuel Macron face à un horticulteur au chômage dans les jardins de l'Élysée pendant les journées du patrimoine. Avalanche de réactions indignées à gauche sur le thème de la condescendance du président, torrent de moqueries sur les réseaux sociaux et les restaurateurs dans tout ça. Est-ce qu'ils confirment? Jérôme Jadot l'a joué comme Macron en plein Paris.
On va suivre le conseil du président, faire la rue avec tous les cafés et restaurants, c'est a priori le boulevard du Montparnasse, et on commence par cette crêperie bretonne. Est-ce que vous recrutez en ce moment?
Non, on a tout ce qu'il nous faut et j'ai une pile de CV en attente.
C'est raté pour ici, et à en croire Romain, serveur embauché il y a 15 jours, ça ne sera pas si facile.
J'ai fait tout le tour de Paris, boulevard Saint-Germain, les Champs-Élysées, Montparnasse. Pendant un mois, comme ça, j'avais rien. Et pourtant, j'ai 15 ans de métier.
Il suffit pas de traverser la rue pour trouver du travail à Paris.
Non, c'est des idées reçues, ça.
Pourtant, juste à côté, au Bistro Burger, est-ce que vous recrutez en ce moment?
Je recherche, oui.
Ça fait longtemps que vous cherchez?
Non, 2 semaines.
Cette gérante se dit prête à recruter un jardinier s'il est volontaire. Pas au café, la consigne.
Non, trop compliqué. Pas le temps de former.
Demi-pêche, c'est celui-là.
Même chose à la rotonde Brasserie Chic où Emmanuel Macron avait fêté le premier tour de la présidentielle.
Malheureusement, faut pas faire travailler en salle des gens non qualifiés.
Après 12 établissements visités, il apparaît qu'Emmanuel Macron a plutôt vu juste sur la statistique. 5 ne recrutent pas, 7 embauchent. même si c'est parfois pour du temps très partiel et si un sur trois ne veut pas d'un jardinier.
Petite enquête signée Jérôme Jadot. Y a-t-il trop de profs en France ? Manifestement oui pour le gouvernement. Jean-Michel Blanquer annonce la suppression de 1800 postes dans les collèges, les lycées et les services administratifs. Confirmation à l'instant sur France Inter. 1400 postes de profs sont concernés alors que le ministère de l'Éducation verra son budget augmenter de 850 millions d'euros.
8h05, la fraude fiscale, Florence, au menu de l'Assemblée aujourd'hui.
Avec un projet de loi qui s'attaque à une exception française, le fameux verrou de Bercy qui voulait jusqu'à présent que seul le ministre du Budget puisse engager des poursuites pour fraude fiscale. Si le texte est adopté, la justice sera automatiquement saisie des cas les plus lourds, Sarah Guibaudot.
En matière fiscale, la justice a des résultats parfois aléatoires. Elle a condamné l'ancien ministre Jérôme Cahuzac ou l'ancien sénateur Serge Dassault, mais les héritiers du marchand d'art Wildenstein ont été relaxés après 8 ans de procédure. Les procureurs réclamaient la fin du verrou de Bercy, mais attention, au lieu du petit millier de plaintes qu'ils reçoivent chaque année du ministère des Finances, ce sont bientôt 2500 cas de grande fraude fiscale qu'ils vont devoir traiter. Un défi, reconnaît Rémi Hetz, directeur des affaires criminelles et des grâces du ministère de la justice.
Cela va conduire au moins à un doublement des affaires dont les parquets sont actuellement saisis, ce qui implique aussi de développer les moyens en la matière pour répondre à ce nouveau défi, à ce nouveau challenge. Souvent, aujourd'hui, en raison de difficultés aussi et de moyens, les enquêtes sont longues et aboutissent parfois à des résultats décevants. L'idée, c'est peut-être aujourd'hui d'avoir une action plus ciblée pour aller plus vite. La fraude fiscale porte sur plusieurs milliards d'euros. Il faut absolument que la réponse judiciaire soit à la hauteur de cet enjeu.
La tendance s'est déjà amorcée. Les tribunaux prononcent des sanctions de plus en plus lourdes, de la prison ferme pour un fraudeur condamné sur 5. Le gouvernement va aussi créer une nouvelle police fiscale pour renforcer les services d'enquête notoirement insuffisants en matière financière.
La majorité perd une députée. Aujourd'hui, la productrice Frédérique Dumas, élue des Hauts-de-Seine et vice-présidente de la Commission des affaires culturelles, claque la porte. Elle décrit des désaccords sur le fond et sur la méthode. On a le sentiment d'être sur le Titanic. Dit-elle aux Parisiens, elle va rejoindre le groupe UDI Agir Ensemble. Un assassinat digne d'un mauvais feuilleton. Maintenant, c'est l'histoire d'une richissime héritière monégasque abattue il y a 4 ans avec son chauffeur à Nice. Hélène Pastor, à la tête d'une fortune de 12 milliards d'euros. Aujourd'hui, son gendre et 9 autres accusés comparaîtront devant les assises des Bouches-du-Rhône. Voïssé Janowski aurait voulu récupérer l'héritage de sa belle-mère, Jean-Philippe Degnaud.
Pour le juge d'instruction, les 500 000 euros qu'Hélène Pastor versait à son couple chaque mois, ces 500 000 euros ne suffisaient plus à Janowski parce que les sociétés qu'il possédait périclitaient, mais aussi parce qu'il avait pris conscience depuis que sa compagne avait déclaré un cancer qu'il risquait de se retrouver à la rue si Sylvia décédait. Il lui fallait donc mettre la main sur l'héritage. Quand Janowski est passé aux aveux en garde à vue, Sylvia a découvert l'ampleur des 28 années de mensonges et de manipulations financières de son compagnon, son frère Gildo Pastor, qui pourtant ne porte n'était pas Janowski dans son cœur, n'imaginait pas qu'il puisse en arriver là. Son avocat, maître Thomas Giacardi.
Ils n'étaient pas amis, il n'y avait pas de proximité particulière, mais ils avaient des relations cordiales et normales dans le cadre des relations familiales. Il avait déjà perçu qu'il avait par moments des tendances à mentir, mais imaginer que réellement ça soit un membre de sa famille qui soit le commanditaire de ce meurtre, il est tombé de la chaise.
5 jours après ses aveux, Janowski s'est rétracté. C'est donc à la cour d'assises de dire maintenant si les éléments de preuve accumulés par l'enquête font de lui le commanditaire de ce double assassinat crapuleux. Aix-en-Provence, Marion Chantreau, Jean-Philippe Degnaud, France Inter.
Le procès va durer 1 mois. Qui a tué Hélène Pastor ? Dossier complet sur franceinter.fr. Une nouvelle accusation contre Tariq Ramadan. En Suisse, cette fois, une femme a porté plainte pour viol. L'agression aurait eu lieu il y a 10 ans dans un hôtel de Genève. Le théologien est déjà incarcéré en France après 2 mises en examen pour viol.
8h09, les images sont absolument dantesques depuis hier.
Et oui, le typhon Mangkhut a quitté les Philippines où il a fait presque 60 morts. Pour la péninsule de Hong Kong, les dégâts sont considérables. Les vents ont atteint les 230 km/h. Il est en train de s'engouffrer, ce typhon, dans les terres plus au nord. Avec nous, Dominique André, correspondante de France Inter en Chine. Dominique, la province du Guangdong est frappée. Les évacuations se comptent par millions.
Oui, et on parle même de 4 morts ce matin dans le sud de la Chine, donc à Canton, cette grande province industrielle où vivent 100 millions de Chinois. 2,5 millions de personnes ont été évacuées. 50 000 bateaux de pêche ont dû rentrer au port et des milliers d'employés des plateformes pétrolières en mer ont été transférés à terre. Ce super typhon rétrogradé en tempête tropicale a balayé le sud chinois avec des rafales de plus de 160 km/h, brisant sur son passage des vitres d'immeubles, arrachant des arbres et des toits d'usines. Les dégâts économiques ne sont pas encore évalués. Les écoles sont fermées ce matin. Les transports reprennent peu à peu, mais restent très perturbés. À Hong Kong, le bilan, lui, est de 300 blessés. Les autorités qualifient les dégâts de graves et importants. La protection civile déblaye en ce moment les routes encombrées d'arbres arrachés par des rafales là-bas qui ont atteint 230 km/h, et des vagues de 4 mètres de hauteur ont déferlé sur la côte. Il faudra aussi plusieurs jours pour écouler les dizaines de milliers de voyageurs bloqués à Hong Kong après l'annulation hier de près de 900 vols.
Dominique André en direct de Pékin. Pendant ce temps, la Florence continue sa route aux États-Unis en provoquant surtout des inondations. Au moins 15 morts depuis vendredi. La Caroline du Nord est la plus touchée.
Et on reste aux États-Unis, Florence, où le candidat de Donald Trump à la Cour suprême est accusé d'agression sexuelle.
Le juge Kavanaugh doit être élu à vie par le Sénat dans les jours qui viennent. C'est une femme de son âge qui a raconté au Washington Post une tentative éthylique de viol pendant une soirée dans les années 80. Ça l'affiche mal pour un conservateur, Grégory Phillips.
C'est le Washington Post qui publie le témoignage de Christine Blasey Ford. Cette professeure de psychologie en Californie raconte qu'elle était 1982. Elle a failli être violée par le jeune Brett Kavanaugh, 17 ans à l'époque, dans une soirée d'adolescents arrosée. Le jeune homme, aidé d'un camarade, l'aurait, selon ce témoignage, maintenu de force sur un lit, tenté de lui arracher ses vêtements, avant que finalement la jeune fille parvienne à prendre la fuite. Brett Kavanaugh a immédiatement rejeté ces accusations en bloc, mais la publication de ce témoignage, 4 jours avant sa nomination par le Sénat, est un coup dur. Les démocrates demandent d'ailleurs un report du vote. Le sénateur républicain de l'Arizona, Fleck, exige que Kavanaugh soit entendu rapidement. Il faut dire que la nomination à vie d'un juge à la Cour suprême est un sujet éminemment politique et important. Si Kavanaugh intègre la plus haute juridiction des États-Unis, composée de 9 juges, celle-ci basculerait un peu plus dans le camp conservateur. Or, la Cour suprême est amenée à se prononcer sur des sujets extrêmement sensibles, tels que le port d'armes ou l'accès à l'avortement. Washington, Grégory Phillips, France Inter.
2 personnes, dont une de nationalité russe, qui tombent malades dans un restaurant de Salisbury. Imaginez la suite, l'intervention des secours, la police qui boucle l'établissement et les routes environnantes. À l'arrivée, rien ne suggère l'usage de Novichok. La police a levé les doutes cette nuit. La vie du rail est cette première mondiale en Allemagne. Des voyageurs du nord du pays peuvent dès aujourd'hui emprunter 2 trains à hydrogène conçus par Alstom pour remplacer des trains à moteur diesel sur des lignes non électrifiés, ces trains à hydrogène émettent beaucoup moins de CO2, Nathalie Versieux.
Le baptême du rail a eu lieu hier pour le Coradia Ilint. L'originalité de ce petit train bleu se trouve sous son toit où un réservoir stocke de l'hydrogène qui permet d'alimenter les piles à combustion du moteur. La technologie du train est française, conçue par Alstom. La fabrication, elle, est allemande. Le Coradia Ilint sort des usines du groupe de Salzgitter dans le nord du pays. 2 trains ont été livrés pour une période transitoire. Ils relieront Cuxhaven sur la mer du Nord aux environs de Hambourg, soit une distance de 100 km. 14 autres véhicules seront livrés par Alstom en 2021. Le Coradia Ilint, idéal pour les courts trajets, roule à 140 km/h et n'émet que de la vapeur d'eau. Alstom a fait le pari qu'en France aussi, la prochaine génération de matériel roulant sera en grande partie décarbonée, alimentée donc par hydrogène. Berlin, Nathalie Versieux pour France Inter.
Lui ne marche pas à l'hydrogène mais à l'eau claire. 4 courses, des sauts à la perche, en hauteur, en longueur, des lancers, 3 lancers, le tout sur 2 jours. C'est le décathlon et le maître de la discipline est incontestablement le français Kevin Mayer, recordman du monde hier après l'épreuve de Talence, après avoir manqué le titre de champion d'Europe en août à Berlin. Du foot et un résultat notable hier en 5e journée de Ligue 1, c'est Marseille qui inflige 4-0 à Guingamp et qui monte sur le podium. Enfin, une finale France-Croatie. Tiens, ça vous rappelle quelque chose?
De bons souvenir.
Ce sera aussi l'affiche de la finale de la Coupe Davis en novembre, après la victoire des Français face à l'Espagne ce week-end.
Et à 8h14 ?
Eh bien, à 8h14, des monuments de style et d'humanité qui ne sont jamais enregistrés, Nicolas. Ce sont les grandes plaidoiries de l'histoire judiciaire. Elles sont jouées en ce moment par Richard Berry au Théâtre Antoine à Paris. Il s'est inspiré d'un livre de Mathieu Aron pour produire une pièce documentaire entrecoupée d'archives vidéo pour replacer les procès dans leur contexte. Stéphane Capron.
La France a peur. La France connaît la panique.
Et je vous dirais que si j'étais juré, je me prononcerais pour la peine de mort.
Ranucci, Papon, Courgeot, Richard Berry nous plongent dans les plus grands procès de l'histoire de France. Et pour la première fois, ils donnent une voix à ces grandes plaidoiries.
C'est-à-dire qu'on a essayé de vraiment se détacher du fait divers et de donner l'occasion aux gens d'entendre des plaidoiries qu'ils n'ont jamais pu entendre puisque les plaidoiries ne sont jamais enregistrées. On place même le spectateur dans la position du jury.
Ce spectacle montre comment les grands procès ont fait bouger les lois dans la société française, comme le procès de Bobigny en 72 sur l'avortement avec la plaidoirie de Gisèle Halimi.
Marie-Claire a déposé et a dit dans quelles conditions tout s'était passé pour elle et dans quelles conditions elle avait décidé son avortement.
Au-delà du fait que Gisèle Halimi, elle a été très impressionnée en entendant sa plaidoirie, elle me disait « Ah bah, tu l'as mieux faite que moi ». C'est vraiment formidable de voir comment les avocats regardent leur propre plaidoirie.
Vous ne devrez pas esquiver la question qui est fondamentale. Est-ce qu'un être humain a le droit, quel que soit son sexe, de disposer de lui-même ?
Ce spectacle est bien plus que du théâtre. C'est un document passionnant sur un demi-siècle de notre histoire contemporaine.
Dans la peau d'un juré d'assises devant plaidoirie avec Richard Berry en ce moment au Théâtre Antoine à Paris.
Merci Florence Paracuelos.